doch die Pfeife.
Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Aujourd'hui, Venise et le tourisme de masse.
Le tourisme à Venise est devenu un hypertourisme, une surfréquentation. Il y a beaucoup trop de monde qui vient à Venise et cela pose un problème extrêmement sérieux. Pour comprendre pourquoi, à présent, il y a ce surtourisme, cette surfréquentation à Venise, qui va nous apprendre beaucoup de choses, évidemment, sur ce que c'est que le tourisme mondial et, évidemment, le tourisme dans le contexte du capitalisme, il faut tout d'abord comprendre l'histoire même de Venise. L'histoire de Venise est absolument conditionnée par sa situation géographique tout à fait exceptionnelle. Les origines de Venise, eh bien, ce sont les invasions barbares à la fin de l'Empire romain. Ça se passe également en Italie, les gens ont très peur. Il y a un endroit qui semble offrir un excellent refuge, les îles au milieu de la lagune de ce qui sera plus tard Venise. Une lagune, c'est quoi? C'est un marais et c'est un lieu où la profondeur de l'eau est faible, mais réelle. Quand on se promène à Venise, quand on se promène dans les îles de la lagune, quand on est sur une barque sur la lagune ou qu'on est sur le fameux pont de la liberté entre Venise et la terre ferme, on s'aperçoit de quelque chose. La profondeur de la lagune, ça peut aller de 30 cm à 1 mètre, 1 m50. Bien entendu, il y a des endroits plus profonds, mais on va dire la lagune à Venise, c'est à peu près 1 mètre de profondeur. Ça signifie qu'une armée qui voudrait envahir les lieux ne pourrait pas le faire en utilisant des bateaux de guerre. Parce que les bateaux de guerre, ils ont un tirant d'eau, évidemment, très supérieur à une profondeur de 1 mètre. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que les soldats soient à pied. Les soldats à pied, c'est bien gentil, mais quand vous avancez dans 1 mètre d'eau, vous êtes donc une cible parfaite pour quiconque défend les terres que vous voulez envahir. Quant à envahir sur des barques ou des gondoles, c'est pas tellement mieux que d'envahir à pied, vous continuez à être extrêmement lent et par conséquent à constituer une excellente cible pour les défenseurs. Une ville établie au milieu d'une lagune, c'est une ville qu'il est à peu près impossible d'envahir. Et c'est la raison pour laquelle, à partir des années en gros 500, eh bien, il y a des populations qui vont s'installer dans les îles qui entourent ce qui est à présent Venise, et puis petit à petit, elles vont trouver que le coin autour de ce qu'ils vont appeler le Rialto, la rive haute, c'est très très bien, c'est fort intéressant, et ils vont petit à petit s'y installer, puis obtenir, plus ou moins difficilement, une indépendance, en particulier à l'égard de Byzance, qui nominalement était censé contrôler la région. Cette indépendance va devenir de jure, et pas seulement de facto, donc elle va devenir juridique et réelle. Seulement, c'est bien joli d'être indépendant, encore faut-il pouvoir se nourrir. La lagune, c'est pas mal parce que vous pouvez pêcher, vous pouvez tirer sur les oiseaux qui fréquentent la lagune. Enfin, c'est quand même un petit peu maigre et il va falloir beaucoup d'objets que la lagune ne peut pas vous fournir pour pouvoir y vivre. Si vous habitez une lagune, si vous voulez un tant soit peu de confort, il vous faut faire du commerce. Venise va pouvoir au début se servir d'une ressource naturelle abondante dans la lagune et très désirée ailleurs, le sel. Le fait d'extraire du sel, évidemment, va lancer les Vénitiens dans une direction très simple, le commerce. Parce qu'ils vont récolter de telles quantités de sel que, bien entendu, elles sont très supérieures à ceux dont ils ont besoin. Et comme le sel est désiré ailleurs, eh bien, grâce à ce sel, ils vont commencer à pouvoir obtenir des choses qu'ils ont du mal à trouver ici, dans la lagune. En particulier, dès le départ, il va y avoir un commerce très utile pour la République de Venise, celui du sel. Le sel se trouve évidemment en abondance dans la lagune, et donc voilà un matériau, une ressource naturelle qu'ils vont pouvoir échanger contre ce dont ils ont besoin qu'ils ne trouvent pas dans la lagune. En particulier, le bois. Les bâtiments de Venise sont édifiés sur des fondations qui sont des piliers de chêne ou de mélèze enfoncés profondément dans l'argile qui constitue la majeure partie du sol de Venise. Et ces chênes et ces mélèzes, bien entendu, ne poussaient pas dans la lagune. En revanche, dans ce qu'on appelle maintenant l'Istrie, et qui est la côte de la Slovénie, puis dans les montagnes des Dolomites au nord de Venise, eh bien, il y a énormément de chênes et de mélèzes. Et c'est là l'un des tout premiers grands commerces auxquels Venise va se livrer. Cette nécessité et cette opportunité du commerce vont développer une autre compétence extraordinaire des Vénitiens, leur compétence dans la navigation. Ça va déclencher une espèce de cercle vertueux où plus ils deviennent compétents en matière de commerce, plus ils deviennent compétents en matière de navigation, plus ils deviennent compétents en matière de commerce. Et puis, la géographie a également un autre avantage pour Venise. Venise est en gros à la frontière, au point de contact, entre les langues latines et les langues slaves. Elle sera plus tard également, en gros, au point de contact entre les terres chrétiennes et des terres dominées par l'Empire ottoman plus tard, c'est-à-dire l'islam. Au tout début, Venise est au point de contact entre les terres extrêmes de l'Empire byzantin et celles de la papauté, c'est-à-dire au point de contact entre les mondes catholiques et le monde orthodoxe. Une autre caractéristique sociale induite par la géographie très particulière de Venise, ce sera l'absence non pas d'une aristocratie, mais d'une aristocratie terrienne, d'une aristocratie agricole. Alors, entendons-nous bien, quand Venise va devenir très très riche, les patriciens vénitiens vont acquérir des grands domaines en Vénétie, c'est-à-dire sur la terre ferme. Seulement voilà, dès le départ, l'espace à Venise, même dans les îles sur lesquelles la ville de Venise va être construite, l'espace est extrêmement réduit. Les gens vivent les uns sur les autres. Et ceci va avoir pour conséquence que ce qui va se développer comme aristocratie vénitienne ne va pas être tellement une aristocratie terrienne, une aristocratie territoriale, mais une aristocratie commercial. À nouveau, cela renforce le cercle vertueux navigation, commerce, commerce, navigation. Et cela renforce, bien entendu, ce qui va devenir un cercle pour nous anarchistes très vicieux, c'est-à-dire que Venise sera l'un des lieux où on va inventer, créer, puis renforcer le capitalisme. Dès le départ, l'aristocratie vénitienne est une aristocratie capitaliste. On sait par exemple que c'est là une grande différence avec l'aristocratie française qui a fait mine longtemps de vouloir mépriser le capitalisme, dont elle se servait tout à fait entre nous, mais officiellement elle ne souhaitait pas être capitaliste. Cette aristocratie commerciale, cette aristocratie marchande va bien se créer un empire, Venise va bien devenir une ville qui va tenter d'être une ville hégémonique, mais cet empire va être plutôt un empire commercial qu'un empire territorial. À nouveau, cela ne signifie pas que Venise ne va pas dominer tout un grand nombre de lieux, par exemple Chypre et la Crète. Néanmoins, l'empire de Venise, c'est d'abord un empire de comptoir, c'est d'abord un empire de petites villes, de petites îles, grâce auxquelles Venise peut faire du commerce avec le monde byzantin, puis le monde ottoman et le monde musulman, voire aussi un peu asiatique en général. Cette aristocratie marchande et cet empire commercial vont, à partir des années 1000, vont trouver un nouveau débouché, une nouvelle forme de commerce qui va leur rapporter énormément d'argent, c'est celle du poivre. Cette épice qui permet de masquer les goûts un peu avancés des viandes et des aliments que, bien entendu, au Moyen-Âge, on a du mal à conserver longtemps à cause de l'absence de réfrigération. En plus du poivre, Venise va faire le commerce des autres épices, par exemple les clous de girofle. Elle va également se livrer à un commerce absolument pas honorable, celui des esclaves, que ce soit des esclaves africains ou que ce soit des esclaves slaves ou balkaniques. De là d'ailleurs le nom d'un certain nombre de lieux à Venise où il y a le mot schiavoni, donc qui est une espèce de mélange entre schiavi et slovène. Et vers le milieu du Moyen-Âge, Venise va commencer à fabriquer du verre, qui se fabrique bien entendu avec des fours, lesquels fours sont pleins de flammes, donc sont des risques d'incendie, et c'est la raison pour laquelle ces fours seront tous déplacés dans l'île de Murano, loin de Venise, de façon à ce que si un incendie se déclenche, il ne ravage que l'île des Maîtres Verriers, et non pas l'île principale de Venise. Les verres vont rapporter énormément d'argent à Venise, en particulier les miroirs. La galerie des glaces à Versailles, n'a pu être réalisé que parce que Colbert, qui avait demandé à Venise d'avoir la gentillesse de lui envoyer quelques mètres verriers pour que la France aussi gagne beaucoup d'argent grâce à la fabrication et au commerce des miroirs, Venise avait répondu à Colbert d'aller se faire voir. Donc Colbert avait envoyé des espions à Venise, lesquels espions sont allés à Murano, ils sont allés parler aux maîtres verriers, et les maîtres verriers étaient sous l'interdiction absolue de quitter Venise sans permission. S'ils se risquaient à quitter Venise sans permission, eh bien c'était la peine de mort. Les espions français vont néanmoins convaincre 5 Maître Verrier de Murano de quitter Venise. Ils vont réussir à les emmener jusqu'en France. Venise ne va pas apprécier, comme Venise disposait d'un excellent réseau d'espionnage. Eh bien, les espions de Venise vont faire en sorte que 2 des maîtres Verriers soient égorgés. Les 3 survivants seront protégés, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de précautions. Et ce seront eux qui pourront réaliser la galerie des glaces. Voilà, c'était le petit intermède sur une forme de relation peu connue entre la France et Venise.
Rising in my hemisphere, the dry white lightning and rolling near, the waves are rising. Mark. Looking down on the tempest and this wandering raft adrift between the freeze and the burn. My demons, they've been your concern. Adrift between the freeze and the burn. My demons, they've been your concern. I was wayward and nowhere to turn. I steer towards you, burning, burning. Isis lies her sight on me. Lord, star, star, star of my mind. Without your light, without your light, this sailor is blind. This homesick sailor, this love-struck sailor is blind. Blind.
Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité, c'est le Proton se rebiffe et nous continuons à parler de Venise. Le fait que l'aristocratie de Venise soit une aristocratie d'abord commerciale, mais également concentrée en un lieu extrêmement réduit du point de vue de l'espace, en un lieu donc où la densité de population est extrêmement élevée, eh bien cela va provoquer quelque chose d'assez unique dans l'histoire mondiale. Cette aristocratie commerciale va refuser de se soumettre à un chef, à un clan, à une dynastie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Cette aristocratie, bien entendu, domine les prolétaires de Venise, les artisans, les gondoliers, tous les gens qui transportent les marchandises diverses et variées. Elle va dominer, bien entendu, les paysans qui vont cultiver les terres sur la terre ferme. Mais entre elles, eh bien, cette aristocratie veut maintenir une égalité quasi complète. Les quelques nuances entre les vieilles familles patriciennes et puis les familles moins viennes et puis les familles complètement récentes n'auront pas beaucoup d'importance du point de vue du pouvoir politique. Et Venise va donc construire une constitution extrêmement complexe avec le conseil des 10 et le conseil des 40 et le grand conseil et le conseil de ceci et le conseil de cela et les sages de la mer et les sages de ceci et même le doge. Et le doge, qui est un honneur, qui est une institution extrêmement ancienne, ce doge va petit à petit perdre tout pouvoir. Le doge va être principalement une figure de proue, quelqu'un qui représente Venise, un peu comme la reine ou le roi d'Angleterre représente l'Angleterre, mais sans beaucoup de pouvoir. Et à chaque fois qu'il y aura quelqu'un, une famille ou un homme qui va essayer de prendre le pouvoir à Venise, au moins par 3 fois, ceci va échouer et les coupables seront exilés. Et donc, des années 700 jusqu'en 1797, quand Napoléon met fin à l'indépendance de Venise, Venise n'aura jamais été dominée par un chef en particulier. Du point de vue de l'aristocratie, Venise a bien été une république et une république égalitaire. Du point de vue des pauvres et des prolétaires, bien entendu, la chose est tout à fait différente. Le fait également que Venise soit réalisé et dirigé par une aristocratie commerciale, habitant un endroit où le sol est très mou, très instable et où des crues se produisent régulièrement, cela va signifier que les matériaux de construction des maisons sont des matériaux de construction relativement peu chers. Donc à nouveau, le bois pour les piliers sur lesquels ils sont construits, et comme ce sont des maisons construites sur des piliers de bois, ben on les veut le plus légères possible, et donc on va construire principalement en briques. On ne va utiliser les marbres que avec des plaques extrêmement fines pour décorer les façades, d'où ces merveilleuses façades des églises ou des palais du Grand Canal, qui sont construites avec du marbre, mais en réalité, la maison derrière, le bâtiment derrière, est beaucoup plus léger. Ces belles façades vont poser un danger à la République. Ce ne sont pas d'ailleurs uniquement les façades, ce sont aussi les gondoles et les barques qui permettent à ces nobles de se déplacer, ce sont bien entendu les vêtements de ces nobles. Eh bien, très rapidement, la République de Venise va comprendre le danger et va imposer des lois somptuaires. Une loi somptuaire, c'est une loi qui vous interdit d'étaler votre somptuosité à un degré trop élevé. Ce sont des lois qui, soit sont là pour maintenir une hiérarchie entre différentes classes sociales. Alors par exemple, au Japon, il y avait des lois somptuaires extrêmement élaborées pour bien marquer les différences entre les différentes classes sociales. Ou à Venise, c'est là bien plus rare, ces lois somptuaires sont là pour maintenir l'égalité entre tous les nobles. Elles étaient extrêmement détaillées. Il y a néanmoins un détail de ces lois somptuaires qui est maintenant encore visible par tous les touristes, c'est le fait que la gondole vénitienne, elle est peinte en noir. Parce que quand la République de Venise se rend compte que les nobles se jettent dans une concurrence effrénée quant à la beauté, quant au luxe de leur gondole pour se déplacer dans Venise, eh bien, ils décident de mettre fin à ce gaspillage et impose que toutes les gondoles soient noires. Cette volonté de maintenir le contrôle sur la société, de maintenir la société dans un état, on pourrait dire, d'homéostase, de tranquillité, d'absence de conflit, bien entendu, ça n'était pas si simple. Il fallait trouver des valves, que les gens puissent se défouler et faire tout un tas de choses. dangereuse qu'ils ont envie de faire, mais qu'il ne faut donc pas laisser aller trop loin. Pour cela, il va y avoir plusieurs institutions qui vont contribuer à rendre Venise célèbre dans le monde et à faire de Venise, dès le Moyen-Âge, une destination touristique. La première de ces valves de sécurité, c'est la prostitution. Il y aura au 15e, au 16e, au 17e siècle, en moyenne 11 000 prostituées à Venise. La prostitution, tout à l'avantage des hommes, est là pour compenser le fait que l'aristocratie vénitienne faisait évidemment très attention à qui épousait qui, et en particulier, il s'agissait de maintenir le caractère vénitien de l'aristocratie vénitienne, pas par racisme, mais par inquiétude envers les possibilités de trahison à l'égard de puissances, au bénéfice de puissances étrangères. Donc il fallait que les aristocrates vénitiens restent entre eux, et dans les 2-3 derniers siècles de la République de Venise, il sera même interdit aux aristocrates vénitiens de parler à des étrangers sans avoir eu la permission. Donc la prostitution est l'une des valves de sécurité. Une autre soupape qui permet de se défouler, c'est le jeu. Le jeu associe en commun avec le commerce qu'il est une prise de risque. Évidemment, le jeu est une prise de risque beaucoup plus aiguë que le commerce. Néanmoins, il faut se souvenir que pendant toute l'époque de la République de Venise, le commerce international, le commerce par la navigation, était quand même quelque chose de tout à fait dangereux, puisque la navigation n'était pas très sûre, et que si on envoyait, mettons, 10 bateaux faire du commerce, il y avait de fortes chances que 3, 4, 5 bateaux, 6 bateaux ne reviennent pas. Donc le jeu est quelque chose qui est relativement compréhensible, voire désirable pour la mentalité des riches vénitiens, et c'est quelque chose qui va donc se développer considérablement dans Venise. Il va se développer en particulier grâce à encore une autre institution qui est le carnaval. Alors je ne parle pas du ridicule carnaval moderne qui sert juste à exhiber des costumes d'un goût douteux, mais du carnaval de Venise qui très rapidement va devenir une manière très hypocrite pour les Vénitiens d'échapper à leurs propres règles. En effet, le carnaval se caractérisait par l'usage de masques. Donc une fois qu'on est masqué, si on se masque bien, en théorie, on ne peut pas vous reconnaître. Tout d'un coup, un très grand nombre de lois somptuaires ou de lois tout court qui enserraient la vie quotidienne des aristocrates, elles se trouvent immédiatement contournées. Parce que quand on est sous un masque, en théorie, on ne reconnaît pas qui est un noble et qui ne l'est pas. En réalité, tout le monde savait très bien qui était noble ou qui ne l'était pas, puisque tout simplement, la qualité des vêtements révélait le statut social, même des vêtements masqués du carnaval. Cela dit, officiellement, quand un aristocrate faisait l'imbécile sous un masque, officiellement, il n'était plus un aristocrate, il était simplement un Vénitien masqué. Et donc le carnaval va servir de défouloir. Il va servir de défouloir à un tel degré que dans la dernière période de la vie de la République de Venise, le nombre total de jours du carnaval sera très proche de 6 mois, c'est-à-dire que pendant près de la moitié de l'année, un grand nombre de règles et de règlements de Venise, en réalité, ne fonctionnent pas au plus grand bénéfice de la classe dirigeante, mais également des prolétaires de Venise. Et puis, il va y avoir une petite institution tout à fait intéressante, quoique scandaleuse, qui était également d'une grande efficacité. Je parle là du ponte dei pugni, le pont des poings. Alors les poings, pas comme un point d'exclamation, mais les poings comme ce que l'on a envie de mettre dans la figure de M. Emmanuel Macron ou de Mme Elisabeth Borne. Le pont des poings, c'était un pont où deux quartiers de Venise avaient traditionnellement le droit, une fois par an, de monter, s'affronter. Alors il existe encore ce pont des poings, il y a sur ce pont 4 empreintes de pied, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et ces 4 empreintes de pied, c'était là où les combattants pouvaient se mettre et ne pas dépasser, jusqu'au moment où on donnait le signal du combat. Au départ, ce combat était uniquement un combat à coups de poing, et qui permettait de défouler l'agressivité contenue des classes ouvrières et basses de la République de Venise, ce qui, bien entendu, arrangeait bien les classes dites supérieures. Le Ponte dei Pugni, c'était le stade de football de l'époque. ce sera quand même supprimé dans les dernières années parce que, au lieu des points, eh bien, évidemment, les combattants commencent à apporter des bâtons. Les bâtons deviennent de plus en plus lourds, parfois deviennent ferrés, il y a des morts, et on se rend compte qu'on est là dans un cercle vicieux extrêmement dangereux, et le pont des Pougny, plus exactement la bagarre officialisée, ritualisée, sera finalement interdite. Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Proton se rebiffe et nous continuons à parler du tourisme à Venise et nous avons commencé en donnant les caractéristiques historiques et géographiques de Venise qui ont permis par la suite au tourisme de se développer dans Venise. Nous en sommes maintenant en 1797, la Révolution française a eu lieu, puis elle a été détruite par Napoléon Bonaparte, qui envahit l'Italie et qui donc, dans cette année 1797, détruit la République de Venise. Il annexe purement et simplement Venise, dont l'indépendance, eh bien, ne sera jamais retrouvée par la suite. En même temps, à cette époque, c'est l'explosion, entre autres choses grâce à l'Angleterre, du capitalisme, qui existait déjà auparavant. Néanmoins, maintenant, il devient clair dans la plupart des pays d'Europe que le capitalisme est devenu la structure sociale dominante. Cette explosion du capitalisme se joint à l'installation de la réaction. L'espérance de mobilité sociale qui avait été donnée par la Révolution française, la destruction de la Révolution par Napoléon, puis de l'Empire napoléonien par les puissances alliées, cela détruit les espérances de mobilité sociale. L'une des réactions à cette destruction, c'est le mouvement artistique, philosophique, intellectuel, émotionnel, appelé le romantisme. Le romantisme a des racines précédant la Révolution. Ses deux créateurs principaux seront Rousseau et Goethe. Néanmoins, après la Révolution, pendant ce qui en France sera appelé la Restauration, eh bien, le romantisme, c'est la structure artistique et idéologique dominante. Or, le romantisme, c'est une phase artistique extrêmement individualiste. Un individu étouffé par les règles de la société qui cherche à exprimer des émotions qui vont dans un sens contraire à celle permise par la société. Le romantisme, on pourrait le résumer par la description d'un individu qui cherche la liberté. Et cette liberté, elle est toujours ailleurs. Et c'est là une grande différence entre le romantisme et les idéaux de la Révolution. Pour les idéaux de la Révolution française, la liberté, elle est à fabriquer ici. Elle est dans un futur proche, et il n'est pas question d'aller la chercher ailleurs. Pour l'individu romantique, la liberté existe déjà, mais elle n'est pas ici. Il faut aller la chercher ailleurs. La liberté, dans la vision du romantisme, c'est le fait de pouvoir enfin exprimer ses émotions, c'est le fait de pouvoir enfin traduire ses désirs dans sa vie quotidienne. La liberté, c'est l'authenticité. Et du fait que la liberté est ailleurs, l'authenticité est également ailleurs. On comprend le lien entre le romantisme et le tourisme. C'est d'ailleurs précisément à cette époque, de la fin du XVIIIe, du début du XIXe, de la moitié du XIXe siècle, que le tourisme, au sens moderne du terme, est inventé par les Anglais. Tout d'abord par l'aristocratie anglaise, qui crée un rituel d'initiation des jeunes qui s'appelle « The Grand Tour », le Grand Tour, et qui consiste, pour en particulier les garçons, mais bon, quelques femmes s'y livrent aussi, mais sont principalement les garçons, qui se livrent à cette expédition, ce Tour d'Europe, qui fait passer les jeunes aristocrates anglais, en particulier par l'Italie, mais également par la France, un petit bout d'Espagne, un petit bout de Suisse et d'Allemagne, mais donc principalement par l'Italie. L'une des étapes du Grand Tour, c'est bien entendu Venise. Un peu plus tard, les Anglais, qui sont donc à présent une société à la fois aristocratique mais profondément capitaliste, inventent le tourisme marchand, le tourisme industrialisé, grâce à un monsieur qui s'appelle Thomas Cook. Thomas Cook va créer une agence qui deviendra l'une des très grosses entreprises du monde touristique. Il invente le fait de rassembler 10, 20, 30, 40 personnes, de les mettre dans le même moyen de transport, de leur faire parcourir le même itinéraire, avec les mêmes horaires, de les envoyer dans les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, de leur montrer les mêmes lieux, les mêmes monuments, de leur faire partager les mêmes expériences. Dès le départ, le tourisme est une activité bâtie sur un grand nombre de paradoxes. Le premier paradoxe du tourisme, c'est cette contradiction qu'il y a entre sa naissance individualiste, sa naissance dans le désir de créer une auto-narration, le mot d'un ouvrage en italien de Giacomo Maria Salerno, Per una critica dell'economia turistica, Venezia tra museificazione e mercificazione, pour une critique de l'économie touristique, Venise entre muséification et marchandisation. Cette notion d'auto-narration qui vient du romantisme et qui est celle où l'individu crée sa propre histoire, regarde, admire sa propre histoire, la raconte à autrui par le biais des œuvres d'art ou des images. Cette autonarration individualiste, elle est bien évidemment le contraire exact de ce qui se passe quand on est inscrit dans l'un des groupes de M. Thomas Cook et plus tard dans l'un des groupes du tourisme industrialisé. La réalité de la chose, c'est que les membres des groupes de Thomas Cook ou du tourisme industrialisé sont persuadés qu'ils se livrent à exactement la même activité à laquelle se livraient les aristocrates anglais dans leur grand tour, dans la construction d'une auto-narration. Parmi les bénéfices psychologiques que procure le tourisme, il y a donc cette auto-narration, cette construction de l'image idéale de soi. On gagne ses galons d'aventurier. On est quelqu'un qui a exploré le monde, on est un voyageur, on a pris un risque, on est parti hors du foyer familial. On a donc fait quelque chose de neuf, d'étonnant et de brave. Moins ridicule peut-être, on a satisfait sa curiosité. Personnellement, j'ai toujours trouvé que la curiosité n'était pas un vilain défaut, mais au contraire, peut-être la plus grande qualité des êtres humains. Nous avons dit que le tourisme vient de ce désir romantique de l'individu étouffé par la société qui cherche la liberté ailleurs, qui cherche l'authenticité ailleurs, qui pense que liberté et authenticité sont identiques. Et là, il faut en revenir à un concept qui a été analysé par un monsieur malheureusement facho comme tout dans sa vie politique, mais brillant analyste de la pensée religieuse, Mircea Eliade. C'est donc le temps sacré. D'une certaine façon, le tourisme, le fait de devenir un touriste pendant un temps bien précis, bien délimité, qui n'est pas le temps du travail, le concept de l'opposition entre le sacré et le profane est absolument essentiel dans toutes les religions. Le tourisme, on pourrait presque l'appeler un pèlerinage agnostique. On part de façon à briser la continuité du temps profane et à entrer dans celle du temps sacré. Ce sont les Anglais, c'est Thomas Cook qui ont inventé le tourisme de groupe. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le tourisme de groupe à visée non religieuse. En réalité, les pèlerinages, depuis des siècles, étaient aussi des formes de tourisme de groupe. Et une grande partie des notions, des techniques, des méthodes qui vont être utilisées dans le tourisme de groupe avaient déjà été depuis longtemps inventées par les pèlerinages. Pour en revenir à Venise, souvenons-nous que Venise, quasiment dès le départ, c'est un lieu de voyage. C'est un lieu d'où les Vénitiens partent pour aller vendre leur sel, pour aller vendre leur verre bien plus tard, mais c'est également un lieu d'où ils partent pour y revenir, chargés d'épices, chargés de poivre, chargés d'esclaves, chargés de toutes les merveilles de l'Orient qui vont être vendues en Occident. Ils partent vers l'Orient chargés des matières premières de l'Occident dont ont besoin les pays orientaux. Seulement voilà, l'indépendance vénitienne est détruite au profit des Autrichiens. Et les Autrichiens se rendent compte que Venise, parmi tous ces petits états, ces poussières d'états italiens qui voudraient tous devenir soit indépendants, soit créer un État italien indépendant et non autrichien, ils se méfient beaucoup de Venise. Ils comprennent que la position de Venise dans la lagune permettrait à Venise de ne pas se faire envahir par une armée. Ils vont inventer la laisse, il guinzaglio. Qu'est-ce que c'est que la laisse de l'Autriche par laquelle elle tient Venise? Et les Autrichiens vont construire un pont, qui est maintenant ironiquement appelé le pont de la liberté, entre la terre ferme et Venise. En construisant ce pont qui porte une voie ferrée, les Autrichiens permettent à leur armée d'entrer dans Venise extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Fare a meno dell'acqua, se passer de l'eau, qui parle de tout ce processus par lequel le capitalisme moderne, veulent supprimer l'obstacle que représente la lagune pour pouvoir accéder plus facilement à Venise, mais également pour pouvoir mieux contrôler Venise et la faire mieux rentrer, non pas dans le capitalisme, puisque c'est elle qui en est l'une des inventeurs, mais pour la faire rentrer dans le capitalisme totalement moderne, on pourrait dire avec Guy Debord, dans le capitalisme du spectacle. C'est bien à partir du 19e siècle que se développe Venise en tant que destination principalement touristique. Sont les facteurs qui vont rendre Venise si attirante pour les touristes? Venise, c'est l'Orient civilisé. C'est l'Orient pas barbare. Toute cette architecture influencée par les styles orientaux et byzantins sans les inconvénients, ceci dit du point de vue du touriste français ou anglais raciste, sans les inconvénients de l'Orient. C'est également la mer, mais la mer pas dangereuse. Quiconque est allé sur la plage du Lido a bien remarqué que l'Adriatique au niveau de Venise, c'est vraiment une mer extrêmement tranquille. Donc on a les bénéfices de la plage, on a les bénéfices de l'eau, sans en avoir la plupart des dangers et des inconvénients. On dira, oui, mais Venise, il y a les crues, les inondations. Oui, non, mais ça, c'est rare et ça ne dure pas très longtemps. En plus, les inondations à Venise ont en général lieu en hiver, c'est-à-dire au moment où il y a le moins de touristes. Donc Venise, c'est l'Orient, c'est la mer sans danger. C'est même aussi l'eau sans danger, puisque un des plus grands charmes de Venise, quand on est dans cette ville, on n'est jamais loin de l'eau. On est toujours très près, au moins, d'un petit canal. Mais ces canaux sont très peu profonds, il n'y a pas de courant. Si jamais on tombe dans un canal, la densité de population à Venise fait que le moindre appel au secours sera immédiatement entendu de beaucoup de monde et qu'il sera extrêmement facile pour les personnes alentour de venir vous repêcher. Un petit phénomène qui séduit beaucoup sans que quasiment personne en parle, Venise, c'est le catholicisme sans la papauté. En revanche, on sait bien que les Vénitiens ont toujours été un peu ombrageux. à l'égard de Rome et de la papauté. On connaît également le célèbre proverbe « Veneziani prima, Cristiani poi », d'abord vénitien, ensuite chrétien. Et je pense qu'en particulier pour les pays anglo-saxons, il y a là une fascination d'un catholicisme à la fois exotique et moins papiste que ce que l'on peut trouver en particulier à Rome. Et puis il y a encore un autre facteur qui est que la ville elle-même est belle. C'est-à-dire que très souvent les touristes perçoivent le fait de visiter les musées comme celui de devoir visiter les musées. Moi, en tant que guide touristique, je le sais bien, très souvent, la plupart du temps, les gens me demandent d'aller dans les musées le matin. Parce que dans leur tête, le matin, c'est le moment où on travaille, l'après-midi, c'est le moment où on est libre. Or, Venise est tellement belle par elle-même que c'est une ville où on peut aller, où on peut se promener dans Venise et revenir et pouvoir dire « j'ai visité Venise », voire, expression abominable, « j'ai fait Venise », sans être entré dans un seul musée ou dans une seule église, sans en ressentir la moindre culpabilité. Et je pense que ce facteur-là est quand même un facteur très important dans la popularité de Venise. Paradoxalement, au XXe siècle, il va se créer beaucoup de musées. Ça va malgré tout aider à la popularité de Venise, parce que ça va renforcer la caution intellectuelle du fait d'aller dans Venise. Aller dans Venise, ça n'est pas seulement aller juste se promener au bord d'une eau pas dangereuse, c'est également aller dans un endroit où il y a des musées de qualité mondiale. Au XXe siècle, aller visiter Venise devient de plus en plus facile. Les liens ferroviaires avec la totalité de l'Europe sont devenus tout à fait confortables et sûrs. Le pont de la Liberté permet, après la Seconde Guerre mondiale, d'entrer dans Venise en automobile. L'aménagement le plus récent, le plus laid et le plus dangereux, c'est l'énorme Tronchetto, cette rade, ce port absolument gigantesque, c'est équivalent à un quart de la superficie de Venise, qui permet d'accueillir les navires de croisière, ces bateaux démentiels qui peuvent faire jusqu'à 10 étages. Et le dernier bateau de croisière le plus récent construit, il peut emporter tranquillement 6 900 passagers. Enfin, il y a une autre partie du mythe de Venise. Venise, cité de l'amour. C'est d'autant plus ridicule quand on regarde ce qui se passe à Venise autour de la sexualité. Tout d'abord, Venise, ça a été une métropole de la prostitution avec 11 000 prostituées pendant des siècles. Le personnage romantique, entre guillemets, le plus célèbre de Venise du point de vue des passions, de l'amour et de la sexualité, c'est Casanova, pas exactement un monsieur recommandable du point de vue de la stabilité des mariages. Et pourtant, le mythe naît très rapidement au XXe siècle. Venise, c'est là où on va en voyage de noces, c'est là où on se tient par la main dans une gondole. Tout ceci va faire en sorte que Venise va donc devenir l'une des destinations touristiques les plus fréquentées du monde. Le tourisme, du point de vue justement mondial, qu'est-ce que c'est ? En 1950, on estime qu'il y avait eu 25 millions de touristes qui se sont baladés dans tous les pays du monde. En 2017, on estime qu'en revanche, il y aurait eu 1,3 milliard de visites touristiques à Venise, 30 millions. C'est un chiffre un petit peu abusif, mais en même temps qui est très parlant. On dit qu'à Venise, pour un habitant, il y a à peu près 550 touristes. Il y a 50 000 habitants, puis il y a 30 000 touristes. Bien, vous voyez la différence que ça fait. Alors, cet indice du nombre de touristes est absolument terrifiant pour beaucoup d'autres lieux. Et on s'aperçoit que, par exemple, une île comme Santorin, qui est toute petite en Grèce, eh bien, cet index-là, c'est un habitant pour 80 touristes. Il faut bien entendu mettre en parallèle les migrations. Et dans le livre dont j'ai parlé, il y a quelque chose d'assez amusant. Salerno nous explique qu'un touriste parisien qui vient manger dans un restaurant thaï à Bangkok, peut-être que le frère du cuisinier tient un restaurant thaï à Paris, que le fils de ce cuisinier étudie l'anglais ou le français dans l'espoir de venir lui-même travailler à Paris. Et puis peut-être que quand le fils de ce cuisinier ou le fils du propriétaire du restaurant thaï à Bangkok se mariera, il viendra faire son voyage de noces à Paris. Il se fera photographier sur le pont Alexandre III, ou il viendra le faire à Venise et se fera photographier dans une gondole. Même si jusqu'à il y a peu, le tourisme était un impérialisme occidental où c'était principalement les Occidentaux qui venaient infliger leur tourisme de masse au reste du monde, eh bien, ceci est en train de disparaître. C'est devenu plus, excusez-moi du mot, égalitaire, ou en tout cas mutuel, où, par exemple, les Chinois, juste avant le Covid, eh bien, commençaient à devenir la deuxième nationalité la plus nombreuse en arrivée à Paris. S'il n'y avait pas eu le Covid, il y a de fortes chances pour qu'ils aient pu obtenir le titre fort convoité de première nationalité à Paris. Première destination touristique du monde, en 2017, eh bien, il y a eu 48 millions de visiteurs à Paris. Aucune ville au monde n'approche de ceci, la deuxième destination touristique étant Las Vegas, avec 39 millions de touristes. Là, les visiteurs sont évidemment beaucoup moins nombreux. L'hypertourisme a ce double paradoxe qu'au lieu d'être gagnant-gagnant, tout le monde y perd, à la fois les touristes et les autochtones. Pourquoi est-ce que les autochtones y perdent ? La hausse des loyers. Quand vous avez des millions de gens qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour des durées de loyer brèves, fatalement, ça crée une demande énorme, très supérieure aux capacités de l'offre, et donc, selon les lois capitalistes de base, ça fait monter les prix. On connaît le rôle absolument abominable d'Airbnb, qui au départ était une idée apparemment positive pour les gens à petits moyens, qui pouvaient par là améliorer un peu leurs revenus en louant leur divan dans leur salon, et qui est devenu une arme de destruction massive des quartiers historiques et des centres historiques des villes du monde. En plus de la hausse des loyers, Airbnb et la surfréquentation touristique provoquent la hausse des prix de l'immobilier. Parce que, évidemment, si on est un autochtone à Venise ou à Paris, on se rend compte que, avant les réglementations qui commencent à être imposées maintenant, une nuit d'Airbnb à Paris, eh bien, on pouvait aisément en demander 100 euros la nuit. C'est-à-dire que si vous avez 30 nuitées dans un mois, vous gagnez 3000 euros dans le mois. Et au début d'Airbnb, eh bien, il était extrêmement facile de masquer ses revenus et donc de gagner tranquillement 3000 euros par mois hors impôts. Donc si vous investissiez dans 2, 3, 4, 5 chambres de bonne, eh bien, vous pouviez gagner 3000, 6000, 9000, 12000 euros. Cela a une influence extrêmement néfaste sur le prix de l'immobilier dans toutes les destinations touristiques. Le prix du mètre carré à Paris maintenant tourne autour de 10 000 euros le mètre carré. Et Venise, qui est vue comme abominablement chère par tous les autres Italiens, à Venise, le mètre carré est tranquillement à 5 000 euros, mais c'est deux fois plus, voire trois fois plus, que le prix du mètre carré à Mestre ou à Marghera, c'est-à-dire les autres villes qui appartiennent à la commune de Venise, qui sont la terre ferme de Venise. Cette hausse des loyers, elle vide les centres historiques des habitants. Si vous habitez dans un appartement que vous pourriez plutôt louer pour 3000 euros par mois et que vous alliez ensuite vivre dans un appartement qui ne va vous coûter comme loyer que 800 euros par mois, c'est difficile de résister à la tentation. Alors, dans le cas de Venise, la chose est extrêmement brutale puisque en 2022, ça y est, on a les statistiques, Venise est passé en dessous des 50 000 habitants. pré-Covid, Venise avait 54 000 habitants, ce qui était déjà très peu par rapport aux 150 000, 160 000 des autres années du XXe siècle. Et donc maintenant, on n'en est plus qu'à un peu en dessous des 50 000 habitants. Ce dépeuplement des centres historiques provoque un cercle vicieux. Moins il y a de magasins, moins il y a d'habitants. Moins il y a d'habitants, moins il y a de magasins. En plus, non seulement il y a moins de magasins, mais il y a moins d'activités non touristiques. C'est-à-dire que les magasins se limitent de plus en plus à être des restaurants, des hôtels, des musées, des magasins de souvenirs, mais rien qui permette la vie normale. L'abondance de touristes, en particulier de touristes à brève échéance, augmente la saleté, augmente le bruit, sature également les infrastructures. Il suffit de se promener dans les rues de Venise en plein été, où littéralement ne peut tenir qu'une seule personne en file indienne, donc il faut savoir dans quel sens on va. Mais bien entendu, cela peut valoir pour d'autres rues, d'autres endroits, où tout d'un coup on ne voit plus rien, on ne voit plus que les autres touristes. C'est pire, bien entendu, quand arrivent les navires de croisière qui font débarquer tout d'un coup 5000 personnes dans une ville qui en compte 50 000, et où là, la saturation devient encore plus stupéfiante. Dans d'autres villes, ce sont bien entendu les aéroports, les gares, mais aussi les autoroutes et les parkings qui deviennent saturés. N'oublions pas que l'un des charmes principaux de Venise depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est la grande ville du monde où il n'y a absolument aucune automobile, aucune moto, aucune bicyclette, aucune trottinette, on est strictement à pied. Le seul autre moyen de se déplacer, c'est en bateau. Mais là, à nouveau, même ça peut souffrir de saturation. Et cette saturation touche même les hôpitaux, les services de santé, le nettoyage, et crée des files d'attente interminables dans les musées, les monuments. Si vous voulez entrer au Louvre sans avoir réservé par Internet, vous faites face à une attente d'à peu près 3 heures. Si vous avez réservé sur Internet et que vous avez la mauvaise idée d'arriver en été, vous attendrez quand même 1h30. Ces chiffres sont à peu près équivalents pour la chapelle Sixtine. Pour voir la scène de Léonard de Vinci à Milan, il vous faut faire une demande 6 mois à l'avance, etc. Une fois que vous êtes à l'intérieur du musée, une fois que vous êtes devant le monument, la présence même de la foule vous distrait fatalement et détruit en très large mesure l'authenticité, la vérité, la beauté de l'expérience que vous souhaitiez vivre. C'est évidemment sans mentionner les tricheries profondes que le tourisme de masse provoque et rémunère. Je ne parle même pas, bien entendu, des parcs à thème style Disneyland, qui sont le total du faux et du simulacre, dans une ville comme Venise, mais aussi dans d'autres villes et dans d'autres lieux du monde, où certaines traditions survivent que par et pour le tourisme, et où évidemment, à ce moment-là, on peut se poser la question de leur authenticité, donc de leur valeur. Le problème de tout ceci, c'est que le tourisme de base, même s'il est promu, créé, renforcé, soutenu, produit par le capitalisme, a aussi une source tout à fait légitime qui est le désir de voyage, le désir de nouvelles expériences. Il y a bien plus embêtant que ça, il y a un problème de classe. Les voyages en groupe, moins maintenant grâce à Internet, mais il y a 10 ans, c'était les voyages de la classe ouvrière, de la petite bourgeoisie, voire de la moyenne bourgeoisie, et le voyage solitaire, le voyage plus noble entre guillemets, était réservé soit aux jeunes qui pouvaient accepter un très haut niveau d'inconfort s'ils avaient peu d'argent, soit aux riches parce qu'ils avaient suffisamment d'argent pour voyager partout dans d'excellentes conditions. Tout le problème de la lutte contre le tourisme de masse, dont maintenant tout le monde admet qu'il est une catastrophe, cette lutte pose immédiatement celui du problème de la classe sociale. Faut-il, en éradiquant par exemple totalement le tourisme de masse, priver les classes les plus basses économiquement et les classes moyennes de toute possibilité de voyage. À nouveau, Internet rend possible le voyage individuel, ce qui diminue jusqu'à un certain point les problèmes du tourisme de masse, mais si le tourisme individuel fait que les gens se précipitent tous dans les mêmes endroits, eh bien ces endroits sont immédiatement saccagés ou rendus sans intérêt. Je pense par exemple à Paris, où la librairie Shakespeare & Company, qui était une librairie charmante de livres anglais, principalement d'occasion, est devenue maintenant un lieu complètement touristique avec une file d'attente devant, la seule librairie de Paris où il y ait une file d'attente et où on gagne beaucoup plus d'argent à vendre des sacs avec le logo de la librairie que à vendre des livres. Ce problème-là a touché Venise depuis extrêmement longtemps. Si on veut continuer à laisser le voyage libre pour tous, et en particulier pour ceux dont, en termes bourdieusiens, le capital culturel est très bas, parce que, entre autres, leur capital financier est également très bas, ça va être difficile de trouver les méthodes pour diminuer, voire éradiquer, le tourisme de masse. Pour l'instant, la solution la plus évidente aux yeux de tout le monde, c'est de limiter les arrivées. Et là, il n'y a guère pour l'instant que deux méthodes. Première méthode, rendre tout beaucoup plus cher. C'est évidemment une méthode directement inégalitaire, extrêmement efficace, mais tout à fait inégalitaire. Ou bien celle d'imposer des quotas, ce qui revient à un mot très vilain qui s'appelle le rationnement, mais qui devient absolument inévitable. Par exemple, j'ai cité l'exemple de la dernière scène à Milan de Léonard de Vinci, et où là, de toute façon, les conditions chimiques de conservation de la scène imposent un nombre de visites tellement restreint qu'il faut donc réserver au minimum 6 mois à l'avance. Malheureusement, on ne peut que imaginer que ce type de mesure va devoir être prise de plus en plus souvent dans le monde. J'aimerais terminer sur une interrogation qui est celle-ci. Est-ce que dans une société anarchiste, autogérée, décroissante, etc., quel serait le statut du voyage ? Est-ce que le tourisme de masse existerait encore ? On peut penser qu'une chose serait certaine, que si la vie quotidienne devient non aliénée, si le travail n'est plus un esclavage, si le loisir n'est plus simplement la nécessité absolue de justement se libérer un instant et un instant bien déterminé de l'esclavage, alors une grande partie de la motivation derrière le tourisme de masse, et en particulier de ses formes les plus bêtes et les plus brutales, une grande partie de cette motivation disparaîtrait, on peut l'espérer, automatiquement. En revanche, le désir de voyage reste un désir humain non seulement acceptable, mais également tout à fait louable. En particulier, le vieux proverbe « les voyages forment la jeunesse » est d'une vérité absolument complète. Et il est donc tout à fait impossible de désirer même que les êtres humains cessent de voyager. Quelle sera donc la solution, en particulier si la planète continue à compter 7 milliards d'habitants, voire 8 milliards d'habitants? Il est hors de question de penser que seuls les habitants du monde occidental auraient le droit de voyager, et qu'à ce moment-là, un beau jour, on se retrouve avec 8 milliards de personnes qui se baladent dans le monde entier. Cette balade des 8 milliards de personnes dans le monde entier, est-ce qu'elle prendra nécessairement les formes du tourisme de masse actuel? On peut espérer que non, mais il semble bien qu'il faudra inventer des choses créatives pour éviter que tout le monde se précipite au même endroit et au même moment. On a vu que les caractéristiques anthropologiques profondes, par exemple du désir d'autonarration, du désir d'un temps sacré, d'un espace de liberté ailleurs, il faudra vraiment que la société nouvelle soit très différente de la nôtre pour que ce phénomène du voyage ne devienne pas celui du tourisme de masse.
Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage nuages volent dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan, voyage, voyage.
Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et surtout évidemment sans publicité. Et maintenant, eh bien, nous passons aux protons, les news. Les infos du proton.
La noix d'honneur du canard enchaîné attribuée au Figaro du 9 janvier, qui dans un portrait consacré au député Manuel Bompard, nouveau coordinateur de la France Insoumise, écrit « Manu, il vendrait sa mère, sa sœur et sa meuf pour Jean-Luc » entre parenthèses Mélenchon. Ironise sans méchanceté Leila Chabi, députée européenne LFI. Il n'y a pas de méchanceté à LFI, juste de la gentille ironie. Le mur du son du canard enchaîné franchi à la vitesse d'un missile russe par Hélène Carrière-Danco sur LCI du 31-12. Cette spécialiste de l'ex-Union soviétique n'a rien trouvé de mieux que de renvoyer Russes et Ukrainiens dos à dos. Elle déclare « J'ai l'impression d'un entêtement des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi les Ukrainiens s'obstinent. Peut-être parce que la secrétaire perpétuelle de l'Académie française confond le mot « obstination » et « résistance ». Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky et Larry Fink, président de la BlackRock, premier fonds spéculatif au monde avec 7 961 milliards de dollars d'actifs, ont décidé de coopérer pour la reconstruction de l'Ukraine. La guerre n'aura pas été perdue pour tout le monde. Olivier Véran à propos de la Première ministre Elisabeth Borne dans Le Parisien. Il déclare « La concertation, le dialogue, c'est sa ligne. Difficile de définir la personnalité de celle qui n'est pas prête d'utiliser un jour le 49-3. » Les vols de vaisselle réutilisables se multiplient chez McDonald's. Des clients profitent de la fin des emballages jetables pour apporter chez eux les verres en plastique, les récipients de nuggets et de frites de la chaîne de restauration rapide. Et certains osent dire que les gens ne s'intéressent plus à l'art. Dans un article intitulé « Boulangerie, nouvelle miche et vieille farine », le point précise « Recettes innovantes, savoir-faire et circuit court ». La boulangerie s'offre une deuxième jeunesse gourmande et n'en finit pas de susciter les vocations. À l'heure où de nombreux boulangers sont contraints de mettre la clé sous la porte, voilà ce qui rappelle en tout cas avoir le sens du timing. Pour ne pas interdire la chasse le dimanche, le gouvernement propose d'obliger les chasseurs à signaler leur présence sur application mobile. Le promeneur, flingué alors qu'il était sorti sans son smartphone, n'aura que ce qu'il mérite, même dans une forêt non couverte par la 4G. Éric Ciotti, président LR, se déclare prêt à voter la réforme des retraites. Il déclare à condition d'en atténuer la brutalité. Il est vrai que cette réforme, c'est comme le torboyau des tontons flingueurs. Faut reconnaître que c'est du brutal. Le pasteur luthérien suédois fait un tabac sur Instagram avec ses conseils de fitness doublés de recommandations spirituelles. Oscar Engarden, au civil, est connu sous le pseudonyme de Crossfit Prest, nom sous lequel il entretient son imposante musculature, son credo. Dieu fait partie de tous les aspects de ma vie. Quand je fais de la musculation, d'une certaine façon, c'est aussi une interaction, une prière pour Dieu. Pour remplir les lieux de culte, il faut les ouvrir au culturalisme. Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement d'organiser la projection au cinéma de films documentaires sur l'offensive de Moscou en Ukraine. Si un cinéaste entend réaliser une œuvre consacrée aux soldats russes morts à Makhnivka, après le bombardement de leur base par l'Ukraine, c'est qu'il n'a rien compris au film. Elles ne seront pas données les places pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. La grille tarifaire varie en fonction du niveau de prestation et de l'emplacement. 4 250 euros, sponsor JO, ou 5 500 euros pour une zone VIP dans les quais. 9 500 euros sur le pont et 25 000 euros pour suivre le spectacle et le défilé nautique des délégations depuis un bateau de croisière. Avis aux bouquinistes, ce n'est pas le moment de vendre vos emplacements. Le dénommé Dominique Villemot, président démocrate vivante, a publié dans Les Échos un article intitulé « Reculer l'âge de la retraite est favorable aux salariés ». Si ces derniers y sont massivement opposés, c'est parce que leur intelligence bat en retraite. Préoccupé par la situation des boulangers, Bruno Le Maire a déclaré « Aujourd'hui, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je leur demande de faire mieux et tout de suite. Avec une telle prise de parole, ils sont sauvés. En Virginie, un gamin de 6 ans a tiré sur sa maîtresse d'école avec un vrai flingue. Preuve que le droit de posséder des armes de guerre inscrites dans la Constitution des États-Unis favorise l'expression des jeunes talents. Dans le choix des prénoms de leurs enfants, les parents péruviens semblent très inspirés par le football, d'après la République des Pyrénées du 7 janvier. D'après le registre national de l'état civil, les prénoms Ronaldo ou Cristiano Ronaldo arrivent en tête, avec 31 583 bébés nés en 2022. Loin derrière figure celui de l'Argentin Lio Messi ou Messi, donné à 361 nouveaux-nés et de la star française Mbappé et au Kylian Mbappé à 229 enfants. Le pays compte également un Elon Musk, un autre s'appelle Qatar, et même pas un Français, Pérou. Un brasier virtuel qui se chauffe et ne brûle, et pour cause puisqu'il s'agit d'une vidéo. C'est les dernières tendances dans les salles d'attente et l'on en croit Le Parisien, disponible en quelques clics sur Internet sous le nom de anglo-saxon de Christmas Fireplace ou Fireplace Ambiance. Ces images ne nécessitent ni petit bois ni allume-feu. Les foyers artificiels marchent avec tout type d'écran, du smartphone à la télévision, en passant par l'ordinateur. Elle ne manque pas de créativité, notre société de consommation.
Mais moi, si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des quarts de poulet, donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée, comme les nazis en l'an 40. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer, sur les pelouses interdites hors des institutions sacrées. Sacré nom de Dieu, c'est meilleur, essayez pour voir et puis dites, divorcez-moi, châtrez-moi le cœur, et puis le reste aussi, quel bonheur. Et mangez-les avec des frites. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour m'être évadé de ces villes qui puent, qui font du bruit, qui meurent d'avoir laissé aux créanciers la rage de n'être pas payé, d'avoir perdu toute ma bile, le long des routes qui vont ailleurs, bordées de cannabis en fleurs, et puis d'en être revenu. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, être différent c'est un crime, être noir ou jaune ou pédé, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça rend jeune et beau tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, fleur cérébral et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur.
C'était Ma Fleur de François Béranger. Nous vous retrouvons pour le Proton se rebiff dans un mois. Et puis, bien, très bonne soirée. Et puis, Radio Libertaire, ça continue.
Moi la nuit, quand je sors en after, je porte la culotte de ma mère en bandoulière, en bandoulière. On me reluque, j'ai un look trop d'enfer, car je porte la culotte de ma mère en bandoulière, en bandoulière, en bandoulière. C'est mon fétiche, ma mascotte, ma bannière, mon caniche, ma biscotte, mon étoile polaire. La culotte en bandoulière,
en bandoulière,
en bandoulière,
en bandoulière.
On reluque, j'ai un look super hot, car je porte de ma mère la culotte en bandoulière.
Ta prière.